Ce soir, on s'intéresse aux versets 6 à 10 plus particulièrement, mais on va lire les versets. Alors, l'apôtre Paul, qui est en train d'écrire, l'apôtre Paul qui était en prison et qui était inspiré par le Saint-Esprit, a écrit, hein, vous savez, plusieurs épîtres, Éphésiens, Colossiens, Philippiens, Philémon. Et puis, dans ces épîtres, Éphésiens et Colossiens, c'est des épîtres, on pourrait dire, jumelles. Et ces deux épîtres sont remplies de perles incroyables. Hein? Quand on lit l'épître aux Éphésiens, quand on lit l'épître aux Colossiens, on se rend compte que ces deux épîtres sont remplies de vérité qui ça nous épanouit, ça nous éblouit de voir toutes ces richesses que nous trouvons dans ces épîtres. Et c'est intéressant de prendre à l'esprit que l'apôtre Paul était en prison. C'était un vieillard, il était en prison, privé de liberté, il est un esclave, mais il dit bien, hein, il dit qu'il est esclave de Jésus-Christ et non pas des Romains ou des Juifs. Il était en prison, et en prison, il est en train de faire une œuvre. Alors, on va voir plus loin tantôt dans les textes. L'apôtre Paul, ce que j'essaie de vous dire, c'est que, dans le fond, l'apôtre Paul, il n'était même pas en prison, lui. Quand on regarde ça, les textes, là, l'apôtre Paul, là, il n'est pas du tout en prison là, pour lui. Dans son âme, dans son esprit, là, il n'est pas du tout en prison. Savez-vous dans quel état il est? Il est en repos. Dans toute sa liberté, quand on le voit, quand on le regarde dans tous les voyages qu'il a fait, toute la vie qu'il a, une vie incroyable que l'apôtre Paul a, hein? Et des épreuves aussi incroyables. Mais là, on le voit emprisonné et on pense qu'il est privé de liberté. On pourrait, à juste titre, le dire, le croire. Mais en fait, non. L'apôtre Paul est tout simplement en repos. Et il est en train de marcher dans une œuvre extraordinaire. Il est en train d'écrire des vérités qui, encore aujourd'hui, nous éblouit, nous enrichit. Et plus on les médite, comme Jocelyn tantôt, on priait, et plus on médite ces textes. On les a tellement lus depuis 25 ans, hein, et plus pour d'autres. Mais encore, le Saint-Esprit nous fait faire des liens avec toute cette richesse que le Seigneur a mis dans nos cœurs et dans nos âmes depuis toutes ces années durant lesquelles on était à son service. Alors, l'apôtre Paul, Éphésiens, alors on va lire les... Est-ce que c'est plus gros cette fois-ci? Oui, hein? Ma femme m'a dit que... À l'arrière, j'essayais de tout mettre les textes dans une diapositive, mais évidemment, c'est un petit peu petit parfois. Alors là, j'ai pris son bon conseil pour mettre le texte sur plusieurs diapositives pour que ce soit plus facile pour vous à l'arrière. Alors, gracieuseté de mon épouse. Éphésiens chapitre 2, verset 1er. Jusqu'au verset 5, c'est des textes qu'on a traités la semaine dernière. Ce soir, ce ne sont que 6 à 10. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions, par nature, des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Seigneur, encore une fois, nous nous présentons devant toi et nous te prions et te demandons de disposer nos cœurs, nos âmes, nos consciences à ta parole, à ne pas se laisser distraire par le prédicateur ou par quoi que ce soit. Seigneur, nous ne sommes que des instruments de justice et d'équité maintenant entre tes mains. Et ce que nous sommes, c'est toi qui l'as construit de toutes pièces. Et Seigneur, on veut que par la foi, par ton esprit, tu parles à nos cœurs. Ces paroles qui viennent du Saint-Livre que tu as laissé pour nous, que ton serviteur Paul nous a laissé en héritage. Seigneur, parle à nos cœurs, fais-nous du bien. Chacun d'entre nous, dans notre tente, Seigneur, en esprit, on a besoin que tu nous parles, que tu nous fasses du bien. Et là, dans le secret, à chacun d'entre nous, Seigneur, fais-nous du bien. Sécurise-nous, fortifie-nous, nourris-nous. Seigneur, tu le fais si bien à chaque fois qu'on prend les Écritures. Alors, encore une fois, nous nous attendons à ce miracle que tu fais à chaque fois. Merci, Seigneur, d'être un Dieu miséricordieux, plein de grâce et de bonté envers tes serviteurs. Tu ne nous punis pas selon nos péchés et tu ne nous châties pas selon nos iniquités, mais Seigneur, tu nous pardonnes et tu prends soin de nous. Un bon Père céleste envers ses enfants. Au nom de Jésus. Amen. Alors, je vous fais remarquer au verset 5, notre frère, la semaine passée, il me disait qu'il ne touchera pas la fin du verset 5, « C'est par grâce que vous êtes sauvés. » Et quand l'apôtre Paul commence, il fait le texte, et là, il fait comme s'arrêter. Là, dans le verset 5, là, « Nous qui étions morts par nos offenses, nous a fait grâce, vivant avec... » Et là, il y a comme un extra d'exaltation, si vous voulez. Là. Puis là, au lieu de continuer ce qu'il avait à dire, c'est par grâce. Il s'exprime, là. Il fait comme exploser de l'intérieur. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Parce que l'apôtre Paul comprenait des choses beaucoup plus que nous. C'est pourquoi l'Éternel lui a révélé, hein, c'est un instrument spécial. Et l'apôtre Paul, là, lorsqu'il exprimait et qu'il nous enseignait ses vérités, il était souvent en transport d'allégresse. Et là, il nous expliquait ses vérités qui probablement... En lui, il les voyait, parce que l'apôtre Paul, n'oublions pas que l'apôtre Paul a été ravi au troisième ciel. L'apôtre Paul, il l'a dit, j'ai entendu des choses qui n'ont pas permis à l'homme d'entendre. Il a vu des choses. L'apôtre Paul a été privilégié comme les autres apôtres. Alors, quand il l'écrit, parfois dans les épîtres, il y a des transports d'allégresse comme ça. Et là, il l'a dit, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Une première fois. Et on le voit au verset 7, à venir l'infini, dans les siècles à venir, l'infinie richesse de sa grâce. Une deuxième fois. Et au verset 8, encore une fois, il dit, au verset 8, comme qu'il vient de le dire au verset 5, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Ce que notre frère a choisi comme thème ce soir pour nous présenter les cantiques. La grâce de Dieu. Et j'avais l'intention de ne pas trop traiter ces versets, parce qu'on en parle souvent, mais finalement, le Seigneur m'a rappelé alors toute notre vie, tout ce que nous sommes, ce n'est que la grâce de Dieu. Et ce n'est jamais redondant de parler de la grâce de Dieu. Alors on va en reparler encore de cette grâce que Dieu nous fait. D'abord... Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait... je ne sais pas pourquoi l'écran, frère à la vidéo, l'écran est trop tassé vers la droite. C'était comme ça il y a quelques semaines. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, là, mais c'était pas comme ça il y a quelques semaines. Tu vas comprendre, là. Tu comprends ce que je veux dire, hein? C'est que moi, je ne vois pas. Ah, là, c'est aussi simple que ça. Hey. Un technicien, hein? Ça pesant d'or. Merci, frère. C'est incroyable. Du bout du doigt, et c'est déjà fait. Bon. Alors, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. On n'arrête pas de s'émerveiller à propos du corps humain, hein? Les scientifiques, à force d'étudier le corps humain, n'arrêtent pas d'apporter des choses et de s'émerveiller. On a un livre, entre autres, qui s'intitule « Les merveilles de Dieu en parlant du corps humain », un livre extraordinaire. Mon épouse est allée cette semaine avec il y avait une activité organisée pour les adolescents au Collège de la Flèche, et c'était scientifique, et c'était à propos du son. Et le scientifique qui était là, à la fin, il avait un cube transparent, si vous voulez, un cube de résine, dans lequel il y avait trois os de l'oreille. Alors, dans l'oreille, il y a des petits os vraiment minimes. Il y en a un qui ressemble d'un enclume. Il y en a un qui ressemble d'un... C'est quoi le mot, non? Un étrier de cheval, et un autre, c'est un marteau. Et on s'émerveille de voir, c'est incroyable, hein? De voir comment est-ce que l'oreille, c'est magique. L'œil, la vue, l'œil, comment est-ce que l'œil, c'est miraculeux, hein? Avec la lumière, et ça s'en va dans le nerf optique. Et même les scientifiques, ils sont capables de comprendre jusqu'à un certain point c'est le corps humain, cette machine merveilleuse. Le toucher, les doigts. Hein? Comment se fait-il qu'on a à peine effleuré la peau et on a des sensations. C'est pas la même chose avec le coude, là. Le coude, on pourrait prendre une paire de pinces puis se pincer le coude, puis on a pas mal. Mais le bout des doigts, c'est, il y a des terminaisons là, par milliers. Et ce qui fait qu'on peut toucher, qu'on va caresser nos enfants, notre époux. Vous comprenez? C'est incroyable comment le corps humain est fait. Le cerveau, on n'arrête pas de s'émerveiller, comment que le cerveau, c'est incroyable, les milliards de cellules, l'électricité, les parties du cerveau lui-même, on n'arrête pas de s'émerveiller à propos du corps humain, le corps humain dans lequel on est. Et là, je vais parler que seulement de quelques affaires, hein, qui concernent le corps humain. Il y a tellement d'organes, il y a tellement... Toute cette machine merveilleuse, comme elle fonctionne, c'est de toute beauté, c'est incroyable. Et là, on ne parle que de notre corps, pécheur, mortel, qui vieillit, qui devient malade et qui devient un mort dans un cercueil. C'est un plus de vie, plus ça pourrit. Alors imaginez ressusciter à l'image du maître. Hein? Il nous a ressuscité. Alors imaginez. Et là, j'ai mis une petite image pour nous mettre à l'esprit, hein, le Christ ressuscité. Et là, on a des textes, 1 Corinthiens 15, qu'on va aller lire, 1 Corinthiens rapidement, 15, où est-ce qu'on voit l'apôtre Paul, encore une fois, qui nous décrit un peu un corps ressuscité. Et il dit au verset 40, 1 Corinthiens 15, 40, il dit: il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre est l'éclat de la lune et autre est l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Et là, il prend cet exemple-là pour dire, ainsi en est-il de la résurrection des corps, de nos corps. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infime, il ressuscite plein de force. Verset 51. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles. On s'émerveille de ce que le corps humain est. Imaginez comment on va s'émerveiller lorsqu'on sera ressuscité, lorsqu'on va revêtir ce corps de résurrection incorruptible. et nous serons changés. Car il faut que ce corps incorruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. On va avoir un aspect, un éclat complètement différent de ce que c'est aujourd'hui. Notre corps va épouser, si vous voulez, une forme, un éclat, une stature incroyable, à la stature du Maître. Dans Jean 20, à la fin, vous savez, quand le Seigneur ressuscite et qu'il se présente au milieu, hein, les portes, les fenêtres étant fermées, le Maître apparaît à ses disciples pour se montrer à eux. Puis le Maître, le corps du Maître, hein, ne répond pas, si vous voulez, à la physique de notre monde. C'est-à-dire que... On se demandait, es-tu vraiment toi? Oui, donnez-moi quelque chose qui se mange, puis je vais le manger devant vous. Parce qu'on était incrédule, il pensait voir un fantôme. Non, ce n'est pas un fantôme, ni un esprit. C'est vraiment moi. C'est vraiment un corps, mais un corps ressuscité. Et c'est un corps de cette stature qui nous est promis. Dans Actes 1, quand le Maître s'en va, hein, il est encore avec ses disciples, il leur parle, etc. Et là, à un moment donné, le Maître, hein, il s'élève dans les cieux, il s'élève. Il s'en va, puis il disparaît. Alors, vous voyez, quand on garde le corps du Maître ressuscité, un corps que même dans son humanité, le Maître avait des... Hein, à cause qu'il était Dieu le Fils, et parce que Dieu voulait faire des choses extraordinaires au travers de lui, alors le Maître était capable de faire des choses incroyable. Mais son corps était quand même limité. Alors que dans son corps ressuscité, glorieux comme qu'il l'est présentement, il peut défier toute loi physique que nous connaissons dans notre dimension. Et c'est ce corps ressuscité que nous allons vêtir bientôt. Alors, il nous a ressuscités ensemble. C'est pas le meilleur reste à venir, frères et sœurs. La parole nous dit qu'on est présentement, là, par la foi, là, on est réellement ressuscité. On a vu dernièrement que l'Esprit qui est en nous, hein, est ce garant que c'est déjà commencé. La résurrection est commencée. La transformation a eu lieu dès qu'on a été sauvé, scellé par l'Esprit. Et la transformation de pécheurs que nous sommes, le Seigneur est en train de nous transformer. Hein. Nous sommes maintenant des instruments d'équité et de justice, de mort que nous étions, de pécheurs que nous, d'iniquité que nous étions. Le Seigneur a commencé à nous transformer. Mais bientôt, nous allons épouser un corps à sa stature, comme le sien. Et ça, c'est enlevant quand on pense à ça. Hein? C'est enlevant quand on pense à ce qu'on va recevoir bientôt. On est ressuscité avec lui, déjà. Ensuite, il dit, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens, hein, l'enlèvement de l'Église, un autre texte qu'on connaît bien, qu'on va aller voir rapidement. 1 Thessaloniciens 4, versets 13 à 17. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne soyez affligés. Que vous ne soyez affligés pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Alors on pensait que ceux qui sont morts, bien, ils ont manqué le bateau. Parce qu'il va y avoir l'enlèvement de l'Église. Hein? Et que ceux qui vont être vivants pour vivre l'enlèvement de l'Église, bien, alors ça veut dire que ceux qui sont morts, ils ont manqué le bateau. Ils n'auront pas le même cadeau que nous autres, si vous voulez. C'est un peu ce qu'ils pensaient. Et là, Paul est en train de... Non. C'est pas ça que je vous ai dit et que j'ai enseigné. Regardez bien ce que je vous ai dit. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole au verset 15 du Seigneur. Nous, les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. descendra du ciel et les morts en Christ, premièrement, ressusciteront. Eux vont revêtir le corps avant nous. Premièrement, ensuite, nous, les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Alors, voyez, on va être avec le Seigneur. Non seulement on est ressuscité, mais on va être toute l'éternité avec le Seigneur dans cette dimension qui lui appartient, la dimension de Dieu. Dans les chapitres 19, on ne lira pas tous les chapitres, mais dans l'Apocalypse, les chapitres 19 à 22, hein, qu'on connaît assez bien, c'est la fin des temps. Et là, au chapitre 19, on voit que c'est les noces de l'agneau qui vont paraître. Et au verset 7, 6, à la fin du verset 6, il est écrit, « Car le Seigneur, notre Dieu, Tout-Puissant, est entré dans son règne. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Son épouse s'est préparée et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. » Alors, non, on est ressuscité présentement, et bien que ce n'est pas le cas encore, on est quand même assis. Hein? C'est ce que le texte nous dit. On est assis dans les lieux célestes avec le Seigneur. Évidemment, ça va prendre une dimension et un état différent de présentement. Mais c'est à venir. C'est déjà commencé. C'est ce que Paul veut dire aux Éphésiens et c'est ce qu'il veut dire à tous les chrétiens. C'est déjà commencé. Alors, on va s'en aller dans la demeure de Dieu. On va traiter le verset 7 à la fin. Verset 8, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Alors, j'aimerais qu'on tourne dans Exode 34, 6 et 8. On va avoir un texte. Peut-être que vous vous demandez qu'est-ce qu'on va faire là. Exode 34. Alors, la grâce. La grâce de Dieu. Qu'est-ce que c'est la grâce de Dieu? On en a une bonne idée. Alors, Exode 34, le verset 6, 5. Alors, l'Éternel voulait avoir un entretien particulier avec Dieu. Il lui a demandé une requête. Il lui a donné une requête et Dieu lui a accordé. Il lui a dit, « Tu vas aller, hein? Où est-ce que je t'ai dit? Et puis, je vais aller te voir. » Au verset 5, il est écrit, « L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. » Ça, c'est le nom de Dieu. C'est son nom, ça. « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. » C'est ça, Dieu. C'est ça, son nom. Et quand il dit « Dieu miséricordieux », la miséricorde de Dieu, c'est de ne pas, on le sait, hein, c'est de ne pas nous punir, nous châtier, comme je le disais dans la prière tout à l'heure, selon ce qu'on mérite. On est des pécheurs. Même si on est sauvé, on est encore des pécheurs. Et Dieu n'était pas obligé de s'occuper de nous. On était des pécheurs par nature et Dieu aurait pu nous laisser aller. Mais à cause que Dieu est, parce que l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, et riche en bonté et en fidélité, à cause de ce qu'il est lui-même, c'est sa miséricorde qui a prévalu pour nous. Et la miséricorde de Dieu, c'est de ne pas nous punir, nous châtier comme qu'on le méritait. Mais en échange, c'est de nous accorder sa grâce, la grâce dont on parle depuis des millénaires, la grâce de Dieu. La grâce, on reçoit de Dieu des bontés, des belles choses qu'on ne mérite pas. On ne mérite pas ça, mais pourtant c'est ce qui nous est donné et offert au lieu d'avoir les punitions, ce qu'on devrait recevoir, parce qu'on est méchant par nature, hein? On est méchant de notre cœur. Il dit le Seigneur, méchant comme vous l'êtes, hein? Méchant comme vous l'êtes. Qui peut connaître, hein, les pensées du cœur? C'est pas croyable comment est-ce qu'on peut être méchant par nature. Et pourtant, Dieu, parce qu'il est miséricordieux et compatissant, alors il nous accorde sa grâce. Et sa grâce va se manifester de toutes sortes de façons qu'on va voir de plus en plus. Il nous a sauvés, hein, par le moyen de la foi. C'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, du Maître. Thomas avait vécu avec le Maître, il avait vu des choses incroyables. Et il avait parlé de sa mort et de sa résurrection. Et lorsque le Maître, hein, dans Jean 20, quand il s'est présenté à ses disciples, les fenêtres, les portes étaient fermées, Thomas n'était pas là. Et les disciples et ceux qui étaient présents étaient troublés, hein, ils étaient en transport d'allégresse. Le Maître s'est présenté, hein, oui, vous connaissez Thomas. Thomas qui ne croyait pas et qui a osé dire, hein, pourtant, il connaissait le Maître. Il a vu des choses. Si je ne mets pas ma main dans ces trous, si je mets. Hein, on connaît les paroles de Thomas. Et plus tard, lorsque le Seigneur s'est présenté encore avec ses disciples, et qu'il a repris Thomas. Thomas, pensez-vous que Thomas est allé mettre ses mains dans les trous? Puis non. Thomas était confus de honte et de regret, hein, de ne pas avoir cru. Comment ça se fait que je n'ai pas cru? C'est par la grâce, hein? C'est par la foi. Ça vient de Dieu. C'est par aucune œuvre. On ne peut pas se sauver soi-même, on ne peut rien faire, mais il faut croire. C'est par la foi qu'on est sauvé et qu'on reçoit la grâce de Dieu. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est quelqu'un qui a pris une photo des nuages et ça avait la forme d'un cœur. C'est assez original, hein? C'est comme si Dieu nous envoyait un message. Le salut de Dieu est réellement un don qui vient du ciel, est un don de Dieu. Le Seigneur Jésus a dit, hein, « Je suis le chemin. » Et en disant « le chemin », il exclut tout autre chemin, le chemin qui mène au ciel. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le Seigneur qui nous le donne. C'est moi qui vous donne ces choses. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. C'est facile à comprendre, le verset 9, on n'a même pas besoin de l'expliquer davantage. Dieu ne voulait pas qu'aucun ne puisse, avec de l'argent, avec des œuvres, avec quoi que ce soit, avec ses capacités, hein, il y en a tellement des capacités chez les hommes et chez les femmes, différentes d'un à l'autre. Alors ça aurait été d'une certaine façon injuste. Pourquoi lui, il est plus intelligent que l'autre? Pourquoi lui, il est capable de faire telle affaire, l'autre n'est pas capable? Ah, tous ceux qui sont capables de faire ça sont sauvés. Ça n'aurait pas de sens. Tous ceux qui sont capables de payer tel montant, vous voyez bien que ça y aurait pas plus grande injustice que ça, si on veut, là, d'une certaine façon. Bien que Dieu n'était pas obligé de s'occuper de nous, mais dans sa justice, à cause de ce qu'il est lui-même, il a fait que ce soit un don, que personne ne puisse faire quoi que ce soit pour le mériter. C'est un don. Dieu se révèle et c'est par la foi seulement, ce n'est par aucune œuvre de personne. Et le verset 10, il dit, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Lorsque nous lisons, « Car nous sommes son ouvrage », alors, je vous, ici, ce qu'il dit, en fait, c'est que nous sommes sa fabrication soignée. Pensez à un artiste, un grand artiste qui est en train de faire une œuvre d'art. Pensons à un potier ou pensons à un artiste incroyable. Il est en train de faire une œuvre. C'est son chef-d'œuvre. C'est l'œuvre d'art sublime de toute sa carrière, de toute sa vie. C'est le maximum de puissance qu'il pouvait mettre dans cette fabrication soignée. Et c'est ce que nous sommes. La façon qu'on a été créé en Jésus-Christ, par grâce, par la foi, l'Esprit qui vient et qui commence la transformation et qui, dans quelque temps, sera ressuscité comme le Maître. On a été créé en lui, comme si que Dieu avait la capacité de nous prendre et de nous mettre dans le Christ. Et c'est de cette façon que nous devenons comme lui, qu'on devient une nouvelle création et qu'on devient si beau de si laid qu'on était. Alors, on est une fabrication soignée, une œuvre de grand art. C'est pas une photocopie. Hein? On est chacun une œuvre d'art, une fabrication soignée. Et lorsqu'il dit que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions, ce sont des œuvres. Dieu a préparé des choses afin que nous marchions en elles. De la même façon que le Maître a marché dans des œuvres, de la même façon que les apôtres ont marché dans des œuvres. Par exemple, tantôt je faisais allusion à l'apôtre Paul qui en fait n'est pas réellement en prison. Oui, c'est vrai qu'il est dans une cellule à Rome, à son époque, par les Romains, mais Paul est en train de marcher dans une œuvre. Et c'est ce que Paul comprenait, il le savait. C'est pourquoi il savait très bien qu'il n'était pas en prison, en fait. Il était tout simplement en train de marcher dans une œuvre que Dieu avait mis à part, préparée d'avance pour lui. Et certainement, Paul s'est reposé durant ces années. Dans cette prison à Rome, dans son petit loyer, il recevait les chrétiens, le Saint-Esprit lui parlait, et c'est à cette époque précise qu'il a écrit ces bijoux d'épître que nous avons. Alors c'était une œuvre préparée d'avance afin que Paul puisse marcher en elle. Et on en a plein des œuvres dans lesquelles Paul a marché, et nous aussi, le Seigneur, c'est ce qu'il nous dit. Alors on a été sauvés par grâce, et nous sommes son ouvrage, créé pour de bonnes œuvres, afin que nous marchions en elles. Hein? Et on sait bien que c'est pour le glorifier et l'honorer. On va terminer avec le verset 7. La raison pour laquelle Dieu a fait cette chose, c'est-à-dire le salut des humains, des pécheurs tels que nous. L'Église de son Fils de Christ. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Et là, c'était grâce pour la deuxième fois, parce que dans le verset 8 qu'on a traité tout à l'heure, c'était pour la troisième fois que le mot grâce revenait, la première fois dans le verset 5, vous vous rappelez. Alors, ce que Dieu veut faire, il veut démontrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce. Alors, Dieu, l'Éternel, Dieu miséricordieux, hein, riche, compatissant, riche en bonté, pour pouvoir démontrer ce qu'il est réellement, Dieu a besoin de faire certaines choses. Si Dieu, dans l'éternité, avait décidé de créer d'autres créatures, il n'aurait pas pu montrer, écoutez bien ce que les Écritures nous enseignent. Dieu n'aurait pas pu pleinement démontrer et montrer comment est-ce qu'il est riche, comment est-ce qu'il est bon, comment est-ce qu'il est gracieux, miséricordieux. Dieu devait faire ce qu'il a fait. C'était le moyen pour lui de montrer jusqu'à quel point. Regardez comment est-ce que je suis miséricordieux. L'essence même, ma nature, ce que je suis en tant que Dieu, avec l'Église rachetée au travers de son Fils. C'est ce que ça nous montre. Et pendant toute l'éternité, cette infinie richesse, qui est dans la grâce de Dieu, va être démontrée. Imaginez les noces de l'agneau, les rachetés des pécheurs tels que nous sommes dans l'éternité avec Dieu. Tout ça va démontrer l'infinie richesse de sa grâce. Et là, j'ai écrit « Rags to Riches », « Clochard à Prince ». Et on pourrait prendre d'autres, des opposés, vous savez, « Esclave, fils », vous comprenez, « Rags to Riches », de si pauvre à si riche, de si rien à si important. Hein? C'est ce qu'on était. Sans Dieu, pécheur, là, aucun intérêt pour nous autres. Mais Dieu s'est tourné vers nous, et le fait qu'il se soit tourné vers nous et qu'il a décidé de nous racheter fait de nous maintenant des créatures incroyables. On a une valeur, on est des perles, des pierres précieuses. Dans 3.10, il nous dit, regardez, Éphésiens 3.10, il est écrit, « C'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis en exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. Les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église. » Dieu veut démontrer l'infinie richesse de sa grâce pour l'éternité. Dans Proverbes 19, 22, il est écrit, « Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. » Par conséquent, Dieu est extrêmement charmant. En Jésus-Christ, et là, ce que je fais pour nous aider à comprendre un petit peu, alors ici, ce que on prend le verset à l'envers. Alors, on commence par ici, puis on s'en va à l'envers, vous comprenez? Alors, en Jésus-Christ, parce qu'il est bon, hein, Dieu, en Jésus-Christ, parce que Dieu est bon, Dieu nous accorde sa grâce. Elle est riche infiniment. De cette façon, il pourra montrer exactement combien il est bon et miséricordieux. Alors, tantôt, on est allé voir dans Exode son nom, Exode 34,6, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, et riche en bonté. Alors, avec l'Église de son Fils, la façon qu'il a fait le salut, Dieu a donné ce qu'il y avait de plus cher et de plus beau, son Fils, pour nous sauver. Entraille la miséricorde de Dieu. Avec cette action incroyable, Dieu va pouvoir montrer toute l'éternité sa grandeur, sa grâce. 2 Samuel 12, et 13, je vais vous, c'est l'épisode où est-ce que David dit, on n'ira pas lire les textes parce qu'on n'a pas le temps, vous savez, c'est Méphibosheth, l'histoire de Méphibosheth, où est-ce que David dit, « Reste-t-il encore quelqu'un de la famille de Saül pour que j'use de lui, que j'use de bien envers lui? » Et là, on lui apprend qu'il y a Méphibosheth, hein? Méphibosheth, hein? Méphibosheth, lui-même, il se dit, qui est ton serviteur pour que tu t'intéresses à un chien mort tel que moi? Méphibosheth, hein? Et puis David lui dit tout de suite en arrivant, ne crains point. Il avait peur. Il était terrifié. Et David, hein, va lui annoncer des choses merveilleuses qu'on va lire tout à l'heure. Un roi neuf. Un roi neuf, 14. C'est le roi Salomon. Non, excusez-moi. Ça ici, c'est... Qui peut me dire qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça représente? Selon une légende d'un grand roi, le grand roi Arthur. Et vous savez qu'à l'époque des rois, il y avait des grandes tables, hein, comme un grand rectangle. Et le roi, les personnes les plus importantes étaient au bout de la table, à côté du roi. Et les personnes vraiment les moins importantes, qu'on ne connaissait même pas, puis qu'on ne voyait même pas, ils étaient 50 pieds plus loin. La table était très, très longue, parfois, là. Puis ils étaient au bout, là, puis on ne voulait pas les voir, puis c'était les moins importants. Selon la légende du grand roi Arthur, lui, il a décidé de faire une table ronde. Parce que tout le monde est important, tout le monde est pareil, autant le roi que ses chevaliers. Et lorsqu'on lit dans les Écritures que nous, on est, qu'est-ce que Christ fait de nous? À cause de sa grâce, il fait quoi de nous? On est des co-héritiers avec Christ. Bien qu'il soit notre roi, bien qu'il soit hein, notre Dieu, notre maître, il va jusqu'à nous appeler mes frères. C'est incroyable la grâce que le Maître nous fait de partager son royaume avec nous. Comprenez-vous l'image de la table rectangulaire du très important au moins important et de la table ronde? Fier d'être avec nous, le grand roi. C'est ce que Dieu a fait de nous, chevaliers, chevalières de la table ronde, comprenez? C'est ce qu'il a fait de nous, la richesse de sa grâce. Et le texte, dans 1 roi 9, ça représente le roi Salomon, le grand règne du roi Salomon. Et quand on va voir le texte qu'on voulait aller voir, mais on n'a pas le temps d'aller le voir, c'est la reine de Séba qui vient et qui avait entendu parler d'un roi, qui avait entendu parler du règne et des serviteurs, de la sagesse de ce roi. Et tout ça sont des images à venir de ce qui s'en vient. Et lorsque la reine est allée voir, elle en eut le souffle coupé. Hein, les mots, là. De voir ses serviteurs, leurs vêtements, ce qu'ils faisaient, le règne et le grand roi. C'était incroyable. On ne lui avait pas raconté la moitié de la réalité. C'est ce qui nous attend. C'est ça, la grâce, l'infinie richesse, la grâce de Dieu qui se manifeste de nous de ces façons. Les noces de l'agneau qui nous attendent. Alors, je veux revenir vous voyez, Mephibosheth, de ce qu'il était à la table du grand roi David jusqu'à la fin de sa vie. On a l'image hein, des serviteurs du grand roi Salomon. Tous ceux qui ont servi sous le règne, les serviteurs du roi Salomon ont été des privilégiés à cause du règne que Dieu a manifesté, hein, a favorisé. C'était un règne unique. Et dans l'Apocalypse, chapitre 19 à 22, on voit des textes qui montrent juste de quelle façon hein, l'épouse chérie du maître. Hein, les noces de l'agneau et toutes ces belles choses. Il vient régner pour 1000 ans et les nouveaux cieux, la nouvelle terre, l'éternité avec l'arbre de vie, la Jérusalem céleste. C'est incroyable. Tout ça, c'est l'infinie richesse de sa grâce pour nous, c'est racheté. Et Dieu, quand c'est écrit dans le verset 7, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce. Un grand chirurgien, comment sait-on que c'est vraiment un grand chirurgien? Un chirurgien, là, incroyable. Comment est-ce qu'on fait pour le savoir? Il va être capable de faire des chirurgies que personne n'est capable de faire, tellement qu'il a une minutie. Un contrôle. Hein? Il y a des chirurgiens qui sont à couper le souffle. ça leur a été donné. C'est un don de Dieu. Même s'ils ne croient même pas en Dieu, c'est un don de Dieu. Comment est-ce qu'on fait pour savoir que c'est un grand architecte? L'architecte va créer un édifice original, un édifice que, waouh, tu regardes l'édifice, puis on dirait que ça flotte dans les airs. Comment est-ce qu'il fait? Hein? Il fait des choses que les gens ont de la difficulté à comprendre. Comment est-ce qu'il... Hein? C'est son intelligence, c'est son talent. C'est un architecte hors du commun. Un grand artiste. Il va faire des œuvres minutieuses, des œuvres. Il n'y a personne d'autre sur la planète qui est capable de faire une œuvre pareille. C'est tellement un grand artiste. Et on voit dans l'Ancien Testament, hein, Dieu dit à Moïse, « J'ai mis de la science, du savoir et des habiletés toutes spécifiques dans tel homme pour qu'il puisse concrétiser le tabernacle. » Personne ne pouvait faire ce que ces hommes ont fait. Tellement qu'ils avaient de l'intelligence, du savoir-faire, des connaissances. C'était un don de Dieu. Et c'est par la réalisation qu'on fait, qu'on sait vraiment qui qu'on est. Non, là, je suis à l'envers, excusez-moi. C'est dans la réalisation de quelque chose que l'on démontre réellement qui on est et comment on est. C'est ce que le Père a fait. C'est ce que Dieu le Fils a fait. C'est exactement ce qu'ils veulent que nous fassions afin de les honorer dans nos vies qui leur appartiennent. Et lorsqu'il parle et qu'il dit au verset 10, nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous marchions en elles. À la mesure que Paul a marché en elles, à la mesure que d'autres hommes, grands hommes et femmes de Dieu ont marché dans des œuvres spécifiques. Et ayez l'esprit que Paul a été en prison plus de 2 ans, mais il n'était pas en prison. Il était en train de marcher dans une œuvre que Dieu avait préparée d'avance pour nous. Et parfois, nos œuvres peuvent être très, 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 très difficiles, mais il n'en demeure pas moins que ce sont des œuvres au travers desquelles Dieu nous demande de marcher. Et souvent, nos attitudes sont très négatives parce qu'on ne comprend pas, on pense que c'est du châtiment, on s'égare, on est parce qu'on pour un moment... Pour un moment, on est déconnecté d'avec le maître, d'avec son esprit, si vous voulez. On ne voit pas réellement, on ne voit pas comme on devrait voir. C'est une œuvre, mon fils, ma fille, que j'ai préparée pour toi. Je te demande de marcher en elle. Oui, ça paraît difficile, mais je te demande de marcher en elle. Pensez-vous que c'était pas facile, les œuvres au travers de laquelle Paul a marché ou d'autres? Hein? On le voit, on a des témoignages incroyables. Alors, le Fils, le Maître, a marché dans des œuvres préparées d'avance pour lui. Il a marché parfaitement au travers d'elles. C'est notre exemple, hein, sublime. Et le Maître s'attend à ce qu'on fasse, qu'on suive son exemple et que nous marchions, nous aussi, dans ces œuvres préparées. Évidemment, il faut les voir, ces œuvres. David a fait des belles œuvres, par exemple, avec Méphibosheth. C'était vraiment une belle œuvre que Dieu avait préparée d'avance pour lui. Et il l'a fait. Quand le Seigneur nous dit, aime ton prochain comme toi-même, aimer son prochain comme toi-même peut se manifester de milliers de façons dans notre entourage, dans notre prochain, à chacun d'entre nous. Évidemment, il faut le voir. C'est par l'Esprit qu'on va voir notre prochain arriver dans notre proximité et de marcher dans ces œuvres que le Seigneur, que le Maître a préparées d'avance pour nous, afin qu'il soit honoré. Alors, Que le Seigneur puisse prendre ces quelques pensées, les mettre dans nos cœurs, et puis nous aider à voir cette infinie richesse de la grâce de Dieu qui coule dans nos vies présentement. Les épreuves et le contexte de nos vies nous empêchent trop souvent de contempler cette infinie richesse de la grâce de Dieu dans nos vies et de s'extérioriser et de s'exclamer de joie et d'allégresse à cause de cette grâce. Seigneur, encore une fois, nous te sommes reconnaissants pour cette grâce qui est dans nos vies. Seigneur, on a regardé un peu avec quelques images pour nous aider à avoir cette grâce. Et Seigneur, pendant toute l'éternité, on va apprendre à découvrir jusqu'à quel point tu es riche, jusqu'à quel point tu as été un artiste incomparable. Ce que tu as construit, ce si grand salut, comme tu l'écris dans l'Épître aux Hébreux, Seigneur, ce si grand salut. Aide-nous à ne pas le mépriser. Et même dans la difficulté, dans les pleurs, dans des attitudes difficiles, Seigneur, aide-nous à tourner les regards vers toi et à te louer pour ce si grand salut. Seigneur, on va traverser les portes de l'oubli tantôt et aide-nous à ne pas oublier et à te louer pour toutes tes bontés envers nous, encore une fois. Amen.